Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Yves pour Air Diwa et c'est l'heure de l'interview sur le 107.5 à Di et le 101.7 à Luc Andiwa au studio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alison. Bonjour.
Bonjour.
Tu es ici pour nous parler du prochain salon d'automne de Di organisé par l'association Sources et Racines. Ça se passera à partir du 17 octobre.
Tout à fait.
Au dimanche 19 novembre, ça sera de 10h à 18h à la salle polyvalente, donc boulevard du Ballon à Di. Et c'est une participation libre qui permettra d'y entrer. Alors on va peut-être présenter la programmation de ce salon d'automne. Un automne, justement, avec ce regard d'aujourd'hui, est-ce qu'il est un peu capricieux cet automne ?
Ah bah oui, tout à fait. Hein. Ça a été quand même très très sec jusqu'à tard. Et là, on commence à avoir de la pluie, mais c'est la pluie en quantité. Voilà, on passe d'un extrême à l'autre. Hein. Oui, oui, tout à fait.
On le voit à la végétation aussi, hein, qui est tardive. Oui. Les champignons, qui sera quand même un gros sujet de ce salon. Qu'en est-il cette année ? Est-ce que c'est une bonne saison ou alors il y a aussi des répercussions de ce climat ?
Eh ben oui, ça a beaucoup tardé, mais là, ça y est, les champignons commencent à bien pousser. Et là, a priori, on aura à peu près au moins 150 espèces différentes. Donc, on a vraiment de la chance que finalement cette pluie soit arrivée.
Alors, au programme, il y a des propositions hein, qui ont lieu actuellement, depuis lundi, donc, et jusqu'à aujourd'hui. C'est à la découverte des champignons, donc des sorties organisées pour récolter des champignons, avec Jean-Claude Rouchouz qui accompagnera les visiteurs et les promeneurs. Alors, on peut aussi parler de cet aspect des champignons et de la mycologie dont Jean-Claude Rouchouz s'occupe. Qu'est-ce que cela permet justement ces sorties pour récolter des champignons ?
Alors ça permet vraiment de découvrir un peu toutes sortes de champignons, pas que les comestibles, mais de s'intéresser aussi à toute forme de champignons, et des plus petits, des plus insignifiants, aux plus spectaculaires, et puis de voir vraiment cette variété et cette diversité.
Toi-même, tu en as suivi ? Une ?
Et malheureusement, non, là, j'ai pas pu. Et j'ai plus travaillé sur l'autre volet de l'exposition cette année, qui sera la biodiversité.
On va y venir avec cette conférence dont tu nous parleras un peu. Il y a aussi autour de ce programme l'espace librairie. Alors, nous arrivons aussi au samedi 18 novembre avec une conférence sur la biodiversité par Pierre Joly. On peut peut-être parler de ce monsieur ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est quelqu'un qui habite dans le Diwa maintenant et qui a été enseignant-chercheur à l'université de Lyon 1. Il était écologue et éthologue et il a travaillé pour le laboratoire d'écologie et d'hydrologie des systèmes naturels et anthropisés. Et il va nous parler de la biodiversité, de ce que c'est et des menaces qui pèsent sur la biodiversité, de pourquoi la protéger. Et voilà, et ça sera suivi d'une intervention des élus de la mairie de Di, délégués à la biodiversité, Fabienne Soudé et Valérie de Retaille.
Pour vous, au niveau de Sources et Racines, la biodiversité est aussi l'ossature de votre structure ?
Oui, après, avec Sources et Racines, on s'intéresse plus aussi à tout ce qui est lien entre les humains et tout l'environnement autour de nous. Là, ça va être plus une thématique naturaliste cette année. Voilà, mais
L'année précédente, il y avait eu aussi des conférences liées autour de la laine, hein, organisées par Marie Marquet. Est-ce que vous avez eu une suite de ces propos, de cette amorce d'exploitation de la laine, puisque on parlait un petit peu de la redécouverte de l'activité, en quelque sorte?
Là, il faudra demander plus à Marie Marquet, voilà, qui a publié un article récemment dans les Chroniques du Diwa, très intéressant, voilà, justement sur les ovins.
Et la société qui en découlait à l'époque. Fait. Toi-même, quelle est ton action au sein de Sources et Racines?
Là, je m'implique vraiment beaucoup sur le salon d'automne. Voilà, c'est l'activité principale sur la partie biodiversité, l'exposition qui aura lieu en parallèle de l'expo sur les champignons. Voilà. Et qui va également présenter un peu qu'est-ce que la biodiversité.
Chaque année, ce salon d'automne, est-ce que vous recevez de plus en plus de public? Est-ce qu'il y a un intérêt croissant des habitants sur la biodiversité et puis aussi ce qui fait le territoire?
Oui, tout à fait. Le salon d'automne a toujours beaucoup de succès et... En fait, ça avait commencé avant Sources et Racines, d'ailleurs. C'est Jean-Claude Rouchouz et Daniel Nall qui avaient lancé ces premières expositions mycologiques en 2012. Et à l'époque, il y avait eu 156 visiteurs. Et là, on arrive en 2021, par exemple, il y a eu 600 visiteurs. Donc, et un grand nombre de champignons exposés. Donc oui, il y a un intérêt croissant sur toutes ces questions. Et ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les personnes, plein de gens sont intéressés par ce sujet-là.
D'ailleurs, il y avait les champignons exposés, mais il y avait aussi d'autres propositions exposées. Il y avait certains insectes, il me semble, et aussi des reproductions pédagogiques de champignons. Il y a aussi quelque chose qui s'étend un peu aussi...
Chaque année, donc, avec, il y a eu des thématiques différentes en parallèle des champignons. C'était la laine l'année dernière. Il y a eu une année où c'était l'apiculture, une année où c'était plus la botanique et la géologie, une année où il y avait toute une collection de courges. C'est vrai que chaque année, il y a une thématique différente. Et cette année, il y aura de nouveau... la collection de champignons en terre de la famille Jean-Di Gautier, de nouveau, voilà. Et on les remercie beaucoup de nous la prêter.
Une très belle collection, en tout cas, hein. Je trouvais ça très beau. Toi-même, tu proposes des balades naturalistes et sensorielles. Et ça se passera donc le dimanche 19, avec peut-être une découverte et une rencontre organisée donc à partir de 10h. Ça sera à la salle polyvalente, hein, ce rendez-vous. En quoi consisteront donc ces balades naturalistes et sensorielles?
J'ai de la chance parce qu'il y a quelqu'un qui va se joindre à moi pour cette balade. C'est François Chenet, qui est un ancien enseignant et qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est zone humide et qui nous accompagnera également pour la balade. Donc, il fait plein de sorties lui aussi. Et on va partir à la découverte de l'environnement du bord de Drôme, à la fois les plantes et les animaux. D'un point de vue plus scientifique, en regardant un peu qu'est-ce qu'il y a, et aussi d'un point de vue sensoriel, à travers nos sens.
Ainsi, vous répertoriez un peu l'existant sur le territoire, vous en prenez note. Et est-ce que c'est pour vous des sujets de réflexion, ou alors est-ce que vous êtes intermédiaire avec d'autres associations ou structures pour qui vous êtes une source d'information?
Toutes ces activités sont pas tant l'activité de Sources et Racines que l'activité du collectif Biodiversité d'Iwa, qui n'est pas encore une association, mais qui est un groupe de personnes qui se passionnent pour la biodiversité, qui réalisent des inventaires des zones humides, des haies, et qui ont participé à l'Atlas de la biodiversité communale sur Die. Voilà, donc François Chenet en fait partie, Pierre Joly également. Voilà, c'est un groupe de passionnés.
Collectif de la biodiversité du Diois, c'est donc un collectif récent ?
Alors, ça fait 2 ou 3 ans à peu près. En fait, ce groupe s'est constitué avec le démarrage de l'Atlas de la biodiversité communale sur la commune de Die. Donc, c'est un inventaire qui a démarré, porté par le parc du Vercors. Et le collectif s'est formé à cette occasion-là. Mais... l'Atlas de la biodiversité, l'ABC, donc on dit l'ABC, est terminé maintenant, mais on continue à travailler et à faire connaître tous ces sujets.
Et cela permet peut-être de constater les fluctuations de la nature dans ce territoire, par exemple.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parallèle du salon, il y a 2 autres membres très actifs du collectif biodiversité, que sont Gilbert David et Hélène Bernard, qui sont actifs avec la LPO et qui lancent un comptage chamois aussi le même week-end. Donc, ça sera depuis 30 ans, ils suivent les populations de chamois sur Glandas et ils font des comptages et ça permet... de suivre cette espèce.
C'est installé en quelque sorte un réseau de structures, d'associations qui œuvrent sur cette même quête de la nature dans ce qu'elle existe.
Oui, tout à fait. Et dans sa qualité intrinsèque, pas que dans son utilité pour nous humains. C'est-à-dire que en elle-même, c'est la richesse de cette biodiversité voilà, qui nous entoure. Et on a la chance de vivre dans un environnement encore à peu près préservé et il faut s'en rendre compte.
Je reviens sur ta balade naturaliste et sensorielle qui se déroulera donc avec une découverte de la biodiversité en bord de la rivière Drôme. Qu'est-ce que tu proposeras donc dans ces balades naturalistes, une description de ce qu'il y aura ou peut-être aussi un peu l'histoire. Est-ce que vous vous intéressez un peu l'histoire du territoire qui influe aussi sur la nature, j'imagine?
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant aussi cette histoire parce que je me rappelle, enfant, et peut-être ceux qui connaissent le Diois aussi depuis longtemps, que toutes les décharges se trouvaient directement au-dessus de la Drôme ou au-dessus de... Voilà, à Lucandiwa, à Die, les décharges, c'était au-dessus de la Drôme, voilà, ou au-dessus des rivières. Et hop, on balançait tout. Je l'explorais avec mon grand-père. On allait explorer la décharge et je me rappelle, il y avait la rivière qui coulait en bas. Et en effet, là, il y a eu un gros travail, heureusement, sur cette qualité de l'eau. Et voilà, donc c'est un travail de longue haleine et à la fois de la mise en place de déchetteries, de systèmes d'assainissement. Et il faut continuer. C'est sûr que continuer à sensibiliser les gens qui viennent par rapport aux barrages sur la Drôme, par exemple, de ne pas trop en faire ou de les enlever, c'est encore mieux. Par rapport aux travaux qu'on fait dans la Drôme, de ne pas les faire aux mauvaises périodes, de faire attention à tout ce qui vit dans cette Drôme qui nous est chère.
À ce propos, vous avez des liens aussi avec le syndicat mixte de la rivière Drôme, qui œuvre elle-même sur la rivière proprement dite.
Et alors, pas l'association Sur ses racines et le collectif. Certains membres du collectif sont parfois en lien, en particulier Gilbert David avec la LPO. Après, le collectif, comme on n'est pas encore en association, pour l'instant, on n'a pas encore toute la reconnaissance qui pourrait être possible.
Ta balade est aussi sensorielle. Comment amèneras-tu cet aspect de la sensibilité au sein de la nature ?
Alors, c'est vrai que c'est intéressant de parler de tout ce qu'il y a autour de nous et d'acquérir des connaissances, mais c'est aussi important de prendre conscience et de de la beauté et de tout ce qui nous entoure et de passer du temps à utiliser nos autres sens, notre ouïe, le toucher, l'odorat. Tous ces sens-là sont également importants pour vraiment percevoir ce qui nous entoure.
Il y aura des moments de calme, en quelque sorte, de repos et de s'imprégner de ce qui nous entoure à ce moment-là.
Voilà, tout à fait.
Il y a un public qui est désireux de ce type de balade. Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que vous échangez aussi au-delà de cette balade?
Alors, pour dimanche, on espère qu'il y aura ce public qui sera sensible à cette proposition. Après, moi, je mène plutôt ce genre de sortie avec des enfants. J'ai plus les... Mais... Oui, les gens sont sensibles à une autre découverte aussi de l'environnement.
Tu parles des enfants. Il y a une éducation populaire qui est dédiée sur cet aspect de la nature à leur adresse. Comment se déroule ce que vous avez... Vous organisez parfois des sorties scolaires, en quelque sorte?
Là, pour le salon d'automne, justement, vendredi, c'est une journée spéciale scolaire. Et il y a des classes qui sont inscrites pour venir visiter l'expo, des enseignants qui viendront avec leurs élèves pour découvrir tous ces champignons et l'exposition sur la biodiversité. Oui.
Alors, ces champignons, on va en trouver plusieurs centaines, on ne peut pas être trop précis là-dessus. Il y aura une information aussi, comme tu disais, sur la flore, la géologie et la faune, tous ces aspects de la nature. Au sein de Sources et Racines, il y a donc des personnes qui sont compétentes dans certains domaines. Et c'est en quelque sorte... Combien de personnes, d'ailleurs, agissent au sein de Sources et Racines?
Alors là, pour le salon d'automne, on est au moins une dizaine de bénévoles qui sont bien mobilisés. C'est vraiment génial, on les remercie parce que heureusement qu'ils et surtout elles sont là pour donner des coups de main, pour ramasser, pour décorer, pour... préparer cette salle pour l'exposition.
Il y a donc ces champignons aussi qui seront amenés le jeudi 16 novembre à partir de 10h jusqu'à 18h. Ça s'adresse à tous les publics qui viendront de leur cueillette amener et demander aussi certains aspects ou peut-être ce que sont les champignons qu'ils amèneront. Alors ça, c'est opéré entre autres par Jean-Claude Rouchouz.
Oui, tout à fait. Oui, c'est Jean-Claude qui est notre grand spécialiste. Malheureusement, cette année, Caroline Palliard, qui enseigne la mycologie à l'Université de pharmacie de Lyon, ne pourra pas être présente. Mais on a fait appel à d'autres personnes également et on espère qu'elles viendront. En particulier, une pharmacienne de Die qui est en train de se former à la mycologie. On espère qu'on aura d'autres des personnes pour aider Jean-Claude à la détermination des champignons.
Champignons qui peuvent être aussi déterminés au sein des pharmacies, normalement.
Oui, tout à fait. Après, tous les pharmaciens ne sont pas formés, malheureusement.
Notamment la pharmacie du Diwa, je crois.
Il y a deux pharmaciennes là, qui s'intéressent beaucoup aux champignons, qui ont suivi des sorties avec Jean-Claude et qui ont fait une petite formation avec Caroline Palliard l'année dernière. Et cette année, donc, l'une d'entre elles qui se forme et qui fait un DU de mycologie.
Alison, toi-même, donc, tu es surtout intéressée par la botanique, c'est ton domaine sur le Diwa. Est-ce que tu constates, c'est une question que je pose souvent, mais est-ce qu'il y a une évolution de la nature qui est beaucoup plus rapide ces derniers temps?
Après, y a des changements plus au long terme et puis après, y a des choses plus radicales qui sont plus liées à nos activités humaines. Voilà, ça dépend En effet, par exemple, dans le Haut-Diwa, au long terme, il y a un développement de la forêt et il y a eu une déprise agricole, on ne peut pas se le cacher. Après, voilà, dans la vallée, il y a d'autres problématiques.
J'ai appris récemment que la lavande elle-même souffrait d'une maladie qui impactait donc sa culture. Et par truchement, les miels aussi à base de lavande se font plus rares. Est-ce que vous constatez un peu ces interactions de ces problèmes climatiques liés au climat ?
Sur la lavande, je ne saurais pas dire exactement. Mais en effet, il y a un développement aussi ces dernières années, je ne sais pas pour la lavande, mais en tout cas, d'arrivée d'insectes ou de maladies qui n'existaient pas avant. On l'a vu avec la pyrale du buis, on le voit avec la mouche Suzuki sur les cerises et sur d'autres fruits rouges. On le voit avec beaucoup de... Il y a un développement... de l'arrivée de certaines maladies et insectes qui sont assez fulgurants. Voilà. Mais
c'est en quelque sorte quand même des mouvements naturels. La pyrale est passée, mais n'est plus présente sur le territoire actuellement.
Ah si, il y en a encore.
Sur quel secteur alors
Là, par exemple, dans le Haut-Diwa, elle revient et... par contre, on voit que la nature s'adapte petit à petit. Voilà, il y a d'autres espèces qui commencent à la manger. Il y a une résilience quand même du milieu naturel. Mais voilà, jusqu'à quand ?
Et puis aussi certains buis qu'on disait morts et qui ressurgissent d'ailleurs et qui se remettent à feuillir.
Oui, qui refont des feuilles.
Oui, qui refont des feuilles. Alors... c'est à l'intention des auditeurs, effectivement, de peut-être pas couper ou décimer prématurément des plantes qui ont souffert. Est-ce que, d'ailleurs, il y a d'autres problématiques liées justement à ces germes ou à ces maladies ou à certains insectes qui sont mis en évidence sur vos constatations ?
Oui, après, je ne saurais pas en parler... Exactement, voilà. Je ne suis pas spécialiste des maladies et des pathogènes.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se documenter sur ce domaine ?
Alors, je crois qu'il y a un organisme au niveau régional qui s'appelle, qu'on voit aussi, le Frodon, je crois, il faudrait vérifier, qui s'occupe en particulier, par exemple, aussi de l'ambroisie, de toutes les espèces invasives qui arrivent. C'est possible qu'eux aient des informations à ce sujet. Et sinon, après, il y a l'OFB, il y a l'Office français de la biodiversité, qui suit aussi les espèces envahissantes. Voilà.
Je mettrai certains liens sur la page de l'émission, hein, peut-être pour les auditeurs qui souhaiteraient se documenter. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur le salon d'automne de Die autour de cette exposition de champignons ? Il y a cette conférence de Pierre Joly. Qu'est-ce qu'il y aura comme point mis en amont sur cette conférence ?
Éventuellement, je peux vous lire comment Pierre Joly nous présente sa conférence. Donc, apparu récemment et très médiatisé, le terme biodiversité porte une conception nouvelle du vivant qui nous entoure. Après en avoir présenté l'histoire et la définition, on verra ensuite pourquoi la biodiversité est indispensable à l'avenir de l'humanité. On établira les causes de son érosion et enfin les actions et stratégies que l'on doit engager pour la protéger et la favoriser. Voilà, donc parler de la biodiversité, des menaces qui pèsent sur elle, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, chacun d'entre nous, tous les jours.
À cette saison, le froid arrivant, est-ce que tu penses qu'il y a des conseils justement à donner par rapport à la faune, notamment? Parfois, on constate une pénurie pour les oiseaux, particulièrement au niveau nourriture. Est-ce qu'il y a, par exemple, des conseils à donner pour aider la nature?
Alors... Je ne sais pas si je dirais aider la nature. J'ai l'impression que la nature se débrouille bien avec nous qui en faisons partie. Pour, par exemple, pour la faune, pour les oiseaux, vous pouvez regarder sur le site de la LPO qui donne beaucoup de conseils sur les mangeoires et les... et toutes les petites possibilités. Voilà. Après, c'est possible aussi de devenir refuge LPO, c'est-à-dire de favoriser la biodiversité par plein de manières différentes. Je crois que d'ailleurs que la sous-préfecture, le jardin de la sous-préfecture est refuge LPO. Donc, c'est le genre d'action qu'on peut faire. On peut voir toutes les manières d'encourager la biodiversité, à la fois en laissant un peu vivre les plantes, sans couper toujours forcément, en laissant un peu les quarts d'air, les chardons, les herbes folles pour les oiseaux, les insectes, en laissant de temps en temps des tas de bois, des tas de cailloux, qui plaisent aux reptiles, qui permettent d'admirer de temps en temps... des lézards verts, enfin voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour encourager la biodiversité autour de nous, en plantant des haies, par exemple.
D'ailleurs, j'ai vu un gecko chez moi. Est-ce que c'est un animal qui tend à monter vers le nord de la France petit à petit? D'ailleurs, certaines personnes disaient d'être étonnées de savoir qu'il y a des geckos ici. Ça permet de démontrer quoi pour la nature?
Alors, en fait, là, on voit en effet vraiment les effets du réchauffement climatique et des changements climatiques avec le développement et l'arrivée, en effet, des tarentes qui sont suivies par François Chenet qui fera la balade dimanche. Voilà, il fait des inventaires et il suit ces tarentes. Et d'ailleurs, on a édité avec le collectif Biodiversité d'Iwa une petite feuille qui donne des conseils aux gens qui refont leur façade dans la ville de Die. Parce que c'est très important à savoir que ce soit les nids d'hirondelles ou les tarentes, il y a certaines précautions à prendre pour éviter de détruire leur habitat parce qu'elles se plaisent beaucoup dans les vieilles maisons et sur les vieux murs. Voilà.
La tarente étant une espèce de gecko?
C'est le gecko. C'est le nom
qu'on lui donne.
C'est l'autre nom du gecko, exactement.
Et qui, voilà. D'ailleurs, qui niche où précisément? Toi, tu parles de toiture, par exemple?
Oui, dans les fissures des murs et sur les murs. Il y en avait beaucoup, par exemple, sur les murs du bâtiment de la communauté de communes, place Jules Plan. Alors, comme le bâtiment a été refait, là, il n'y en a plus trop. Mais voilà, on espère qu'ils reviendront et qu'ils ont pu se mettre à l'abri quelque part. Voilà.
Voilà, et qui se nourrissent essentiellement d'insectes, donc qui nettoient bien aussi les habitations.
Oui, tout à fait. Voilà. Après, c'est François Chenet, notre grand spécialiste des tarentes.
Ça sera peut-être l'occasion pour lui de l'interroger dans une prochaine émission. Vous avez un site internet oui. Pour trouver et découvrir votre activité. Donc j'ai donné l'adresse. Pour tout renseignement, est-ce qu'il y a un contact qu'on peut citer aussi?
Oui, tout à fait. Vous pouvez appeler Jean-Claude Rouchouze au 04 75 21 02 00 ou moi-même au 06 43 75 41 67.
Au-delà de ce salon d'automne, est-ce que vous, sur ces racines, organisez parfois des rencontres ou des rendez-vous peut-être récurrents pour se retrouver, échanger sur la nature?
Oui, alors il y a eu des programmes de sorties régulières dans les années passées avec une sortie par mois sur des thématiques différentes. Après, à l'avenir, on verra.
Eh bien, Alison Marshall, Adjaye, merci d'être venue sur Heure du Bois pour nous annoncer ce programme du Salon d'automne de Die qui aura lieu donc du 17 au 19 novembre 2023 à la salle polyvalente à Die, avec aussi ce dépôt des champignons et à partir du 16, dès 10h à la salle polyvalente.
Oui.
Pour ce Salon d'automne, Alison, est-ce qu'il y a un besoin aussi de bénévoles?
Ah ben oui, bien sûr, on accueille volontiers toutes les bonnes volontés si les personnes veulent venir aider à installer jeudi à partir de 10h ou vendredi ou tenir l'accueil, ou voilà, il y a toujours besoin de bonnes volontés.
Il y aura quelques boissons chaudes.
Ah oui, on préparera quelques thermos.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.